Radio Prague, les informations.
La mairie de Prague prévoit 12 millions de couronnes pour les victimes du tremblement de terre en Haïti. Edouard Yanota, l'adoption de l'euro en 2015 n'est pas réaliste sans réforme. Et enfin, plusieurs blessés, notamment des enfants, à cause de la fonte des neiges. Bonsoir, la mairie de Prague a annoncé des dons s'élevant à 12 millions de couronnes pour les victimes du tremblement de terre en Haïti. Ils seront partagés entre 3 organisations, c'est ce qu'a annoncé le maire de la capitale tchèque, Pavel Bem. Un don de 2 millions a déjà été approuvé par le conseil municipal ce mardi 19 janvier. Les conseillers doivent encore voter sur le reste des subventions jeudi 21 janvier. Ce même jeudi, la mairie de Prague, en coopération avec la télévision publique tchèque et la radio tchèque, organisera un concert caritatif qui se tiendra sur la place de la Vieille Ville entre 13h et 21h. À 4 mois des prochaines élections législatives, un sondage mené par le Centre des études empiriques montre que les écarts entre les partis se creusent dans les intentions de vote. Le Parti social-démocrate gagnerait 83 des 200 sièges à la Chambre des députés si les élections avaient lieu en ce mois de janvier. Cela correspond à 8 sièges de plus que lors des sondages réalisés en décembre dernier. Par contre, le Parti civique-démocrate perdrait 9 sièges. Le Parti communiste a de plus en plus d'intentions de vote. D'après le sondage, il gagnerait 32 sièges. Parmi les petits partis, le parti Top 09 est crédité de 20 sièges, tandis que le parti des chrétiens-démocrates tomberait à 6 sièges. Le ministre des Finances, Edouard Yanota, estime que l'adoption de l'euro en République tchèque en 2015 n'est pas réaliste si des réformes de fonds ne sont pas conduites d'ici là. Il a en effet averti ses collègues européens à Bruxelles que la position de la République tchèque sur les marchés financiers pourrait empirer. Il a rejeté l'idée d'une banqueroute de l'État, comme le suggèrent certains analystes, mais il a reconnu que si la République tchèque continue avec un déficit autour de 5 ou 6% pendant 2 ou 3 ans, la crédibilité du pays sur les marchés financiers seraient sérieusement atteintes. Sans immigration, en 2065, la République tchèque compterait 1,8 million d'habitants en moins qu'aujourd'hui. C'est ce qu'a fait savoir l'Office tchèque des statistiques en synthétisant les données reçues par chacune des régions tchèques. S'il n'y avait pas d'immigration dans 55 ans, les régions tchèques verraient le nombre de ses habitants baisser de 13 à 23% et c'est la capitale tchèque qui souffrirait le plus de cette baisse, perdant jusqu'à 280 000 habitants. La fonte progressive de la neige tombée en masse la semaine passée dans le pays provoque des accidents. Ce mardi 19 janvier, un enfant de 9 ans se trouve dans un état grave à l'hôpital universitaire Thomayer de Prague après que de la glace qui se trouvait sur le toit de son école lui soit tombée dessus. Un nourrisson a également été interné dans le même hôpital après des chutes de glace d'un toit dans le quartier pragois de Nusle. À Plzeň, une femme a été blessée à la tête. Et donc on termine avec la météo. Mercredi, le ciel en République tchèque sera nuageux à couvert avec quelques rares chutes de neige à l'ouest du pays. Quelques éclaircies apparaîtront notamment sur les régions moraves. Les températures diurnes se situeront entre moins 4 et 0 degrés et nous fêterons les Ilona. Voilà, c'était le bulletin d'information qu'avait le plaisir de vous présenter Anne-Claire Velure.
Faits et événements en République tchèque. Václav Richter.
Selon Eurostat, Office statistique des communautés européennes, les Tchèques sont les moins exposés au risque de pauvreté parmi tous les pays de l'Union européenne. La Micronésie continue à protester contre le projet de rénovation de la centrale thermique au charbon de Prunejov en Bohême du Nord. La nuit des églises ouvertes a donné lundi le coup d'envoi à la semaine de prière en faveur de l'unité des chrétiens. Un an après la disparition de l'architecte Jan Kaplitsky, le projet de la Bibliothèque nationale est abandonné. Tels sont les thèmes dont nous allons vous entretenir dans ce tour d'horizon de l'actualité tchèque que nous avons intitulé « Faits et événements ». Merci de rester avec nous. Selon Eurostat, Office statistique des communautés européennes, les Tchèques sont les moins exposés au risque de pauvreté parmi tous les pays de l'Union européenne. D'après cette source, 9% seulement des Tchèques seraient exposés au risque de basculer au-dessous du seuil de la pauvreté, la moyenne européenne étant de 17%. Les données en question ont été réunies par Eurostat au cours de l'année 2008. L'indice de la pauvreté est le résultat de plusieurs critères. La statistique tient compte, entre autres, des possibilités des gens de payer leurs vacances, de chauffer leur maison ou leur logement, d'acheter une voiture ou de manger de la viande. L'ensemble de ces critères situe donc la République tchèque en première position, devant la Slovaquie et les Pays-Bas, où le risque de pauvreté touche 11% de la population. Selon cette statistique, la situation la plus difficile a été recensée en Lettonie, en Roumanie et en Bulgarie, où la pauvreté menace 20% de la population. Cependant, Martin Potoucek, professeur à la faculté des sciences sociales de l'Université Charles de Prague, estime que ce rapport est inexact et parfois même erroné.
Ces données témoignent de la distribution des revenus en République tchèque. Si nous voulons comparer l'incidence de la pauvreté dans d'autres pays européens, nous devons utiliser d'autres indices. Selon cette statistique, un Tchèque riche serait pauvre en Autriche et un Roumain riche serait pauvre en République tchèque.
Par contre, Marek Loujek, directeur des recherches du Centre pour l'économie et la politique, prend les résultats de l'enquête de l'Eurostat beaucoup plus au sérieux. Il souligne qu'il y a toute une série de critères de pauvreté dont certains sont absolus et d'autres relatifs.
La Banque mondiale a défini comme critère absolu de la pauvreté le revenu de 1,25 $ par jour. C'est une pauvreté extrême. Selon ce critère, il n'y a donc pas de pauvres en République tchèque.
La statistique Eurostat indique que ce sont les Tchèques de moins de 17 ans qui sont les plus exposés au risque de pauvreté. 13% d'entre eux ont été menacés en 2008 par ce fléau, de même que 7% des retraités et 4% des employés. D'après Marek Loujek, il faut savoir situer ces données dans le contexte européen.
La pauvreté est toujours un phénomène relatif. Il est toujours important de savoir avec qui nous nous comparons. Il faut que nous nous rendions compte de cela. Nous ne devons pas nous comparer seulement avec les riches, mais nous devons nous rendre compte aussi comment vivent les gens à l'est et au sud, et peut-être aussi apprécier davantage notre situation.
Les Tchèques ont-ils donc à craindre la pauvreté? Le professeur Martin Potoucek trouve une autre raison selon laquelle ce danger menace les Tchèques un peu moins que certains autres peuples.
Les Tchèques ont un peu moins à craindre que certains autres Européens, car pour le moment, notre État social, bien qu'il soit très pauvre, redistribue les moyens limités dont il dispose d'une façon plus efficace que certains autres États.
Toutes les données publiées par Eurostat ne concernent que l'année 2008. La statistique ne dit pas donc dans quelle mesure la situation matérielle des Européens a été influencée au cours de l'année dernière par la crise économique. En décembre dernier, en pleine conférence de Copenhague sur le climat, l'information curieuse, il est vrai, avait quelque peu prêté à sourire. Les États fédérés de Micronésie, situés dans le Pacifique à 13 000 km de Prague, avaient en effet fait part au ministère tchèque de l'Environnement de leurs inquiétudes relatives au projet de rénovation de la centrale thermique au charbon de Prunežov en Bohême du Nord. Depuis, la Micronésie, menacée directement par la montée du niveau des océans, n'a pas laissé tomber l'affaire. Guillaume Narguet.
Le Bureau de l'Environnement et des Catastrophes Naturelles de Micronésie est revenu à la charge début janvier. En décembre déjà, les autorités de ce minuscule groupe d'îles paradisiaques avaient envoyé une première lettre au ministère tchèque de l'Environnement dans laquelle elles se disaient préoccupées par la modernisation de la centrale de Prunežov. Le ministère micronésien demandait donc l'autorisation d'avoir un droit de regard sur les études d'évaluation de l'impact sur l'environnement de la centrale une fois les travaux achevés. La centrale électrique incriminée, située au nord du pays, dans une des régions les plus industrialisées et polluées de République tchèque, est la 18e source la plus importante d'émissions de dioxyde de carbone en Europe. Elle est la propriété du géant énergétique ČEZ, la Société nationale de production et de distribution d'électricité, dont le président du conseil de surveillance, Martin Kocurek, n'a pas caché son étonnement devant l'initiative prise par la Micronésie.
Je dois avouer que j'ai été surpris, oui, parce que à l'origine, c'est une information qui était entrée par une oreille et ressortie par l'autre. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'une plaisanterie, avant d'apprendre qu'il s'agissait bien d'une démarche officielle de leurs autorités chargées de cette problématique. Il convient donc de la considérer avec sérieux.
Comme la plupart des pays situés dans l'océan Pacifique, la Micronésie risque d'être submergée par la montée des eaux des mers, conséquence du réchauffement climatique et des émissions de CO2. Ces responsables politiques en charge de l'environnement affirment être bien conscients du fait que ce ne sont pas précisément les émissions produites par la centrale de Plounajov qui font monter le niveau des océans et qu'il existait environ 5000 centrales électriques de même genre dans le monde qui contribuaient ensemble aux émissions globales de gaz carbonique et à la dégradation du climat. En attendant, le ministère tchèque de l'Environnement aurait dû rendre une décision il y a 15 jours de cela relative aux travaux d'un montant de 800 millions d'euros devant servir à prolonger la durée de vie de la centrale jusqu'en 2025. L'annonce de la décision a toutefois été remise à plus tard, une des raisons de ce retard étant justement la déclaration de 5 pages envoyée début janvier par la Micronésie.
La nuit des églises ouvertes a donné lundi le coup d'envoi à la semaine de prière en faveur de l'unité des chrétiens. Alena Gebertova pour plus de précisions.
Pour une seule nuit, celle de lundi à mardi, une grande partie des églises tchèques, qui sont sauf les heures de messe habituellement fermées pour éviter des braquages, ont ouvert leurs portes. Une façon de permettre non seulement aux fidèles, mais aussi au large public, de les visiter ou de les voir autrement. Sandra Zalabova, du Conseil œcuménique des églises, principal organisateur de cette opération.
Il s'agit d'amener dans les églises même les gens qui normalement n'y vont pas et qui ne prennent pas plaisir à assister aux messes. Cette action attire aussi des fidèles qui sont curieux de voir des programmes qui sont différents de ce qu'il y est présenté à l'accoutumée et qui ont un caractère culturel.
Projection de films sur des thèmes religieux, concerts, expositions. La gamme d'événements culturels préparés pour l'occasion est large. Une place privilégiée revient pourtant aux messes œcuméniques, qui sont célébrées pour marquer la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. On notera, dans ce contexte, la messe qui est célébrée ce mardi à l'église Saint-Guy de Prague, en présence des évêques de l'ensemble des diocèses tchèques, et qui est consacrée aux victimes du tremblement de terre à Haïti. Si la nuit des églises ouvertes a eu lieu pour la 6e fois, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens a lieu régulièrement depuis 1968, ses débuts remontant même à la première moitié du 18e siècle en Écosse. Dans un appel lancé à cette occasion, l'évêque František Radkovský, délégué de la conférence épiscopale tchèque pour l'œcuménisme, invite les fidèles à offrir à la société qui est autour de nous et qui est divisée par des intérêts égoïstes une unité formée à la base de l'amour mutuel.
Le 14 janvier dernier, un an s'est écoulé depuis la disparition soudaine de l'architecte britannique d'origine tchèque Jan Kaplický. Et c'est presque un an jour pour jour après son décès que le ministre de la Culture remet la question de la Bibliothèque nationale sur le tapis en annonçant que le projet de l'architecte est abandonné. Anna Kubista.
Le blob, la pieuvre, la méduse, les images associées au projet ambitieux de Jan Kaplický sont évocatrices de la forme étonnante que devait prendre la nouvelle Bibliothèque nationale de Prague. Un projet qui, dès qu'il a remporté l'appel d'offres en 2007, a eu ses admirateurs et ses détracteurs. En tout cas, il a divisé en deux camps la société tchèque. La polémique met alors Jan Kaplický sous le feu des projecteurs et la République tchèque découvre par la même occasion un peu mieux cet architecte atypique, concepteur de bâtiments futuristes à travers le monde. Un tchèque qui s'est fait un nom à l'étranger après son émigration en Grande-Bretagne en 1968, comme le rappelait alors Zdeněk Lukeš, historien de l'architecture, après son décès.
Il a fondé son studio Future Systems. Pendant longtemps, il n'a reçu que de petites commandes parce que même pour l'Angleterre, son architecture était assez extravagante. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il a beaucoup travaillé avec la NASA, pour laquelle il a réalisé de nombreux projets. Plus tard, il a réussi à obtenir de plus grands projets pour lesquels il a reçu des prix prestigieux comme le bâtiment du club de cricket à Londres, le grand magasin Selfridges à Birmingham qui a même servi d'illustration pour des timbres.
Selfridges Birmingham, qui s'est dostal na britské známky.
Ce 14 janvier 2009, lorsqu'il s'effondre à l'âge de 71 ans dans une rue du 6e arrondissement de Prague, Jan Kaplicki a pourtant toutes les raisons de se réjouir puisque sa jeune épouse vient d'accoucher d'une petite fille. Pour son ami, le musicien Pavel Bobek, les 2 ans de bataille autour de la construction de la bibliothèque refusée par la ville auront toutefois marqué l'architecte.
C'est une vraie campagne contre lui qui a été menée pendant 2 ans, contre cette personne formidable qui a gagné un appel d'offres d'architecture internationale. Ils n'ont pas reconnu sa victoire, pourtant d'une certaine façon c'était un patriote, il était enthousiaste à l'idée de faire quelque chose comme le Théâtre National, pour le coup la Bibliothèque Nationale.
En tout cas, aujourd'hui, le projet si controversé semble bel et bien abandonné. Lundi, le ministre de la Culture, Václav Riedelbauch, l'a annoncé, arguant que le terrain sur l'Etna, la Bibliothèque nationale, ne pouvait désormais plus l'obtenir et qu'en tout état de cause, le prix à débourser serait trop élevé. Quid alors de la bibliothèque qui doit faire face à un vrai problème de stockage de ses ouvrages? Elle a décidé de revitaliser les locaux du Clementinum qui l'abrite, d'agrandir son dépôt avec une antenne à Rostivach et d'améliorer la logistique de transfert des livres. En attendant, des initiatives civiques continuent d'œuvrer en faveur du projet de Jan Kaplicki et en avril prochain, la réalisatrice Olga Shpatova et la veuve de l'architecte présenteront leur documentaire consacré à Jan Kaplicki, Oko nad Prahou, l'œil au-dessus de Prague en français, qui retrace le parcours et la dernière croisade de l'architecte.
C'est Anna Kubišta qui a mis fin à ce tour d'horizon de l'actualité tchèque préparé pour vous par la section française de Radio Prague. Mais ce n'est pas tout pour aujourd'hui, ne quittez pas l'écoute, notre émission se poursuit.
Panorama.
Panorama.
République tchèque. Alexis Rosenzweig.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de cette émission. Aujourd'hui, pour cette émission, nous sommes au cœur de Prague, Malteské náměstí, ça s'appelle, pour rencontrer Frédéric Schendel. Alors Frédéric Schendel, on l'avait déjà rencontré il y a quelques mois, même quelques années, quand il travaillait encore dans un atelier bien connu de vitrail, parce que le vitrail, sa passion, il en a fait son métier. Et aujourd'hui, bonjour Frédéric.
Bonjour.
On est dans ton nouvel atelier. Alors nouveau, c'est tout nouveau parce que ça date de cette semaine, c'est ça ?
Exactement, j'ai emménagé dans un vieux bâtiment de l'époque baroque pour faire mon propre atelier et c'est un lieu chargé d'histoire et ça vibre de tous les côtés.
Alors ça sent bon, tu peux nous décrire déjà comment tu t'es installé depuis quelques jours seulement ?
En fait, ici j'ai installé des plans de travail, donc grosso modo 2 grandes tables. Dans lesquels, sur lesquels je travaille donc pour proposer à la fois des cours de vitrail, pour des cours d'initiation au vitrail, pour présenter un petit peu l'univers du vitrail aux personnes qui seraient intéressées, et pour travailler essentiellement, pour faire des pièces sur commande.
Alors voilà, parce que donc tu as 2 principaux objectifs, même si on parlera de tes autres activités après. Si quelqu'un souhaite avoir un vitrail chez lui ou dans un local spécial, peut-être même dans une église pour rénover quelque chose, il peut s'adresser à toi. Mmh. Et puis de l'autre côté, tu veux faire partager ta passion, c'est-à-dire donner des cours avec présentation sur ton ordinateur, mais surtout des cours pratiques pour des gens qui veulent commencer ou qui ont déjà commencé, qui veulent poursuivre leur initiation à l'art du vitrail, c'est ça ?
Tout à fait. Il y a donc effectivement l'initiation proprement dite, c'est-à-dire on va découvrir l'univers, donc c'est valable pour les enfants. C'est aussi l'un des objectifs, c'est de permettre aux enfants de manipuler les matériaux, de découvrir un peu le verre qui a plusieurs formes. Donc il y a aussi les 2 techniques majeures que j'essaie de mettre en valeur, donc la technique du plomb traditionnel qu'on trouve dans les églises et le Tiffany aussi, qui est propre, qui est d'autant plus important ici à Prague que l'époque Art Nouveau est très représentée avec le style sécession, C7C. Donc c'est un peu difficile à dire. Et bref, voilà, l'idée c'est d'allier ces 2 techniques en proposant à la carte des choses pour tous les publics.
Alors pour expliquer peut-être brièvement la technique du plomb, on en voit ici devant, je ne sais pas si c'est exactement ça, mais...
Il y a les deux techniques ici, on a donc des pièces en, avec des profils de plomb, ce qu'on appelle les profils de plomb, qui permettent d'insérer les verres et de sertir les verres dans une structure en métal, donc ici le plomb, et à côté on a des pièces Art Nouveau, donc d'inspiration Art Nouveau plutôt, qui sont réalisées en Tiffany, donc beaucoup plus fines, et on peut faire beaucoup plus d'effets d'armature, beaucoup plus soignés.
Alors en quelle langue est-ce que tu donnes tes cours et quel est le public que tu vises?
Pour les différents cours d'initiation, je propose donc en français essentiellement, et dorénavant en anglais et en espagnol, donc là aussi auprès des adultes et des enfants.
Alors, on est à deux pas de l'ambassade de France. Tu vas peut-être récupérer des diplomates qui auraient besoin de s'initier à autre chose que la diplomatie à la sortie du travail.
Ah ben, ce serait un grand plaisir. Je vais mettre des pancartes et faire un fléchage.
C'est vraiment juste en face. Et alors, j'en parlais il y a quelques instants. Tu as aussi d'autres activités. Tu organises des visites, alors notamment de la cathédrale Saint-Guy. Je crois que tu y étais ce matin avec un petit groupe pour leur parler... entre autres, des vitraux.
Tout à fait. C'est même le but essentiel, c'est de proposer différents parcours. Donc, pour la cathédrale, c'est clairement des vitraux religieux. Mais il y a aussi une visite que je fais, que je vais décliner sur Stale Miesto, pour découvrir les vitraux civils, cette fois, qu'on trouve dans les passages, au travers des rues, et qu'on oublie de regarder souvent. Et ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est que une de mes premières visites, pour l'anecdote, c'était avec des Tchèques de la vieille génération, des seniors, et ils m'ont fait le plus beau des compliments, c'était de dire qu'ils avaient redécouvert leur quartier à cette occasion. Donc c'était très bien pour moi.
Et qu'ils n'avaient jamais remarqué. Alors j'essaie de penser pendant que tu dis ça, j'en vois un qui est dans le passage du Sfietosaur. Je crois que c'est une pub pour Tesla.
C'est ça.
Est-ce qu'il y en a d'autres?
Ah, il y en a plein, mais il faut venir voir.
C'est lequel ton préféré?
Ah, il y en a quelques-uns, mais effectivement, il y a le passage Novak, qui est le plus connu aussi, qu'on voit de la rue, mais il y a des petites surprises un peu partout, éparpillées.
Alors, on peut trouver des informations et ton contact sur ton site internet. Est-ce que tu peux nous donner l'adresse?
Alors, c'est www.chefraled.eu.
Je crois que tu vas devoir épeler parce que c'est un peu compliqué.
Alors, C-H-E, F comme Frédéric, R-A, LED.eu. Vous êtes les bienvenus dans mon atelier pour voir un petit peu. Je peux vous montrer avec grand plaisir cet art qui est pour moi vraiment ma passion depuis très très longtemps. Et si je peux vous faire découvrir un peu ce milieu, j'en serais ravi.
Alors tu as aussi des projets, je crois, qui mêlent vitraux et architecture. Alors quand on disait que les gens pouvaient passer une commande, en général, quels sont... Je sais que tu m'as dit qu'il y a quelques mois, tu avais déjà eu quelques commandes. C'est quoi, en général?
Eh bien, justement, j'essaie de développer un aspect un peu... Ce qui était à l'ordre du jour à l'époque, Art Nouveau, notamment, c'était de passer des vitraux fenêtres, en gros, aux vitraux objets. Donc ça passe notamment par le paravent. Ça, c'est un support idéal, et j'ai eu l'occasion de faire un paravent qui s'appelle Rustalka, donc qui était vraiment pour une personne qui souhaitait garder un souvenir de son séjour de Prague. Et donc j'ai essayé de figurer ce personnage légendaire de la culture tchèque en vitrail, et c'était une très belle expérience pour moi. Et donc j'essaie de développer ce genre de support en faisant un objet qu'on puisse, ou de décoration intérieure, ou revenir à cet esprit de l'Art Nouveau et des années du début du siècle, ou par exemple avec le modernisme en Espagne, par exemple avec Gaudí, qui est une de mes grandes références, ou voilà, des artistes qui étaient capables de penser globalement l'espace.
Et les gens qui viennent pour l'instant à tes cours, à tes premiers cours, c'est des jeunes, des vieux? Comment est-ce qu'ils ont entendu parler du vitrail?
Ah bah, c'est le bouche à oreille commence à faire son effet. J'ai de tout public, en gros. J'ai des dames, j'ai des enfants, j'ai même la chance de travailler avec des vrais artistes qui travaillent déjà différentes techniques et qui adaptent leurs propres œuvres en vitrail. Donc c'est très très intéressant au niveau de la coopération. Et Donc, si je peux en citer, je peux dire, par exemple, Anne Dufetel ou Marie-Jo Ruzicova, qui est la femme du jazzman, Karel. Donc voilà, c'est des grandes personnes. J'ai quelques œuvres en cours, par exemple, de ces deux personnes-là.
Merci beaucoup, Frédéric Schendel, et bon courage. On rappellera sur le site internet de Radio Prague, ton site internet. Merci encore.
Merci beaucoup.
L'émission en langue française de Radio Prague est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos programmes sur www.radio.cz/fr.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can listen on Saturdays and Sundays at 1330 hours on 9850 kHz and on DRM. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours on 17545 kHz and at 0430 hours on 9855 kHz. In the Middle East, listen at 1130 hours UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15700 kHz, at 1400 hours at 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours on 9885 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. And in North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC.